franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et le réchauffement climatique qui aurait un impact direct sur la biodiversité des sommets, c'est en tout cas l'hypothèse d'une équipe de recherche internationale qui s'est penchée sur l'évolution de la flore de quelques 302 sommets. Et pour les chercheurs, ce serait un signe supplémentaire de ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire l'altération des écosystèmes par l'activité humaine depuis maintenant plus de 60 ans. Catherine de Coppet, pour en parler, nous sommes comme tous les lundis avec nos confrères de reporter.net, Hervé Kempf.
Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour.
Et nous sommes aussi en duplex de France Bleu Picardie avec vous, Jonathan Lenoir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur ingénieur en sciences forestières et maître de conférence à l'université de Picardie Jules Verne. Et vous co-signez donc cette étude publiée dans Nature il y a quelques jours. Alors pour cette étude, pas moins de 302 sommets européens de différents massifs ont été observés. C'est d'ailleurs un des points remarquables de cette étude. Comment fait-on concrètement pour observer 302 massifs ?
Alors, il faut effectivement beaucoup de temps. C'est aussi de la recherche d'informations dans la littérature scientifique, puisque c'est des sommets qui avaient été inventoriés par des botanistes il y a déjà plusieurs années. Pour les plus anciens, en tout cas pour les inventaires les plus anciens, ça date de 1870 dans l'étude. Donc, il y a à peu près 150 ans de recul au niveau temporel. Et donc, c'est une première phase de recherche dans la littérature. On fouille un petit peu ce qui existe dans les livres, dans les différentes thèses ou bien dans des articles scientifiques qui ont publié en fait des inventaires botaniques à une certaine date. Et l'avantage, c'est que ces massifs et ces sommets de montagne sont généralement bien localisés dans l'espace. On peut facilement revenir sur un sommet, puisque un sommet est facilement identifiable, hein, et ça bouge pas trop dans l'espace.
Alors l'idée, c'est de collecter des données sur le même endroit à plusieurs moments pour avoir une série temporelle. Donc vous avez retenu les sommets qui ont été observés combien de fois à peu près ?
Alors, il y a une grosse variabilité dans ces données. Il y a des massifs qui ont été observés, au minimum, il faut au moins deux images. Hein. Mais avec deux images, on ne peut pas voir une accélération. Tout au plus, on voit une vitesse, un changement, en jouant au jeu des différences entre ces deux images. Mais il nous faut bien minimum trois images pour commencer à voir une accélération. Et il faut savoir que certains massifs ont été inventariés jusqu'à neuf fois, en fait, de manière plus ou moins... étalé dans le temps. Hein, c'est surtout des massifs en Suisse et dans les Alpes suisses qui ont été beaucoup échantillonnés par les botanistes. Donc voilà, au maximum 9 fois et au minimum, on va dire, 2 fois.
Alors avec toutes ces données, vous avez réussi à prouver que la biodiversité de ces sommets s'est donc enrichie ces dernières années et ce, de façon accélérée. Quel est votre résultat concret, si je puis dire ? Est-ce que vous pouvez le détailler ?
C'est-à-dire que si on regarde il y a à peu près 50 ans, quand on fait l'analyse du changement de biodiversité, c'est-à-dire du nombre d'espèces qui colonisent un peu les sommets, on constate qu'il y a 1,1 espèce, on va dire, qui colonise les sommets sur la décennie d'il y a 50 ans, alors que sur la décennie actuelle, on atteint 5 espèces, si vous voulez, en moyenne, sur la décennie actuelle. Donc c'est 5 fois plus important qu'il y a 50 ans, en termes de vitesse de colonisation du nombre d'espèces qui arrivent sur ces sommets.
C'est cette accélération, justement, Jonathan Lenoir, qui surprend au vu des résultats ?
Oui, c'est vraiment peut-être le résultat novateur, en fait, ici nouveau, qu'on met en avant. C'est non seulement le caractère, le fait qu'on regarde à une très grande échelle sur 302 sommets, sur l'ensemble de l'Europe, hein, que ce soit des Pyrénées jusque dans les montagnes scandinaves, au nord de la Norvège. Mais effectivement, le résultat majeur, c'est de montrer cette accélération qui se fait au cours du temps avec de plus en plus d'espèces qui colonisent ces sommets.
Hervé Kempf pour reporter.net.
Et ben alors, qu'est-ce qui se passe pour les espèces qui vivaient ou qui vivent au sommet, qu'est-ce qui va leur arriver? Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi en dessous, à l'étage inférieur? Est-ce que les espèces colonisatrices y restent ou est-ce qu'il y a une autre flore qui apparaît?
Alors, les espèces, effectivement, qui sont sur les sommets, il y a beaucoup d'espèces qu'on va dire un peu typiques de ces sommets de montagne, des espèces alpines. Pour elles, on observe qu'elles étaient déjà présentes et qu'elles sont toujours présentes. Donc on n'a pas observé, en tout cas dans les données qu'on a sur ces 302 sommets un peu partout en Europe, de disparition d'espèces. On n'a pas d'extinction vraiment avérée. Donc on observe toujours ces espèces typiques, comme des androsaces des Alpes ou androsaces ciliées, pour noter quelques exemples d'espèces typiques de ces sommets, ou la renoncule des glaciers, qui est une espèce typique des sommets de montagne dans les Alpes. Donc on les observe toujours, elles n'ont pas disparu. Mais par contre, le fait qu'il y ait d'autres espèces qui arrivent des étages inférieurs, c'est-à-dire, on va dire, des espèces un peu plus d'altitude inférieure des sommets, où on va avoir des pelouses alpines très riches en espèces, avec une biodiversité importante, beaucoup plus importante que la biodiversité qu'on peut observer sur ces sommets. Ces espèces-là, elles ont progressé vers les sommets. Hein, on observe par exemple, si je donne des exemples d'espèces qui ont colonisé ces sommets et qui n'étaient pas présentes là avant, il y a le cas de l'arnica des montagnes, qui est une plante qui parlera certainement à beaucoup de gens. L'arnica, en fait, est une espèce qui n'était pas du tout présente, qui était complètement absente des sommets il y a 100 ans, quand on regardait les premiers inventaires. Et aujourd'hui, on la trouve sur 14 sommets, parmi les 302 inventoriés. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais voilà, passer de 0 à 14 sommets où on a une colonisation avérée d'arnica, c'est quand même un résultat important au niveau de cette espèce. Il y a d'autres exemples de ce type-là. Il y a par exemple des espèces de fougères. Il y a beaucoup de fougères qui ont colonisé les sommets. Ça, c'est quelque chose d'assez marquant dans les données. On avait jusqu'à, on va dire, 20 sommets à l'époque qui étaient occupés par des fougères. Et aujourd'hui, on a jusqu'à 69 sommets sur les 302 étudiés, donc 49 de plus, qui présentent des espèces de fougères qui n'étaient pas là avant. Donc une vraie colonisation de fougères sur ces sommets, sachant que les fougères, en fait, ont une capacité aussi de dispersion supérieure aux plantes vasculaires ou plantes à fleurs, parce qu'elles ont cette capacité de disperser par des spores. Et les spores sont très bien dispersées par le vent, donc en fait, elles sont efficaces pour coloniser rapidement de nouveaux milieux et les sommets de montagne, notamment.
Alors, on comprend bien, Jonathan Lenoir, cette cohabitation. Alors, cette augmentation de cette biodiversité au sommet, elle serait liée donc au réchauffement climatique. C'est l'autre résultat d'envergure de votre étude, puisque vous avez croisé les deux courbes, si je puis dire.
Oui, c'est exact. En fait, si on doit pouvoir mettre en avant, on va dire, un suspect numéro un parmi les différents candidats en termes d'explication de ce qu'on observe, c'est effectivement le réchauffement des températures à l'échelle globale, et notamment sur les massifs, qui explique le mieux nos résultats. Alors qu'on peut pas dire que c'est une relation de cause à effet, ce sont des corrélations. Donc on a une corrélation très positive entre l'accélération de cette biodiversité qui augmente sur les sommets et l'accélération de l'augmentation des températures elle-même sur les sommets. On a des sommets qui ont présenté des augmentations de température de l'ordre de 2-3 degrés par rapport à il y a un siècle, si vous voulez. Donc sur les sommets, l'augmentation des températures est notable, limite plus importante que ce qu'on peut observer à plus basse altitude. Et si on regarde les autres candidats ou les autres facteurs qui pourraient expliquer ces changements, notamment tout ce qui est dépôt atmosphérique et notamment eutrophisation liée au dépôt atmosphérique, à la pollution atmosphérique, ça aussi c'est un facteur global qui est souvent mis en avant pour expliquer des changements de biodiversité, puisque l'apport d'azote va améliorer, si vous voulez, les conditions du milieu et favoriser l'arrivée d'espèces un peu nitrophiles. Donc ça, on a regardé ça aussi, mais c'est pas un facteur qui explique les résultats observés sur ces massifs. Donc on a écarté cette hypothèse, et puis il y a aussi l'hypothèse de l'augmentation des activités humaines à haute montagne, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de randonneurs, de gens qui utilisent la montagne aujourd'hui et qui peuvent favoriser aussi ces colonisations à haute altitude. Ça, pareil, c'est des choses qu'on a regardées, mais qui n'expliquent pas vraiment les tendances observées.
Mais Jonathan Lenoir, justement, l'intention, c'est pas le mot à employer, mais en tout cas, pourquoi est-ce que ces plantes, justement, vont vers les sommets? C'est pour essayer de conserver une température? Quelle est l'explication, alors?
Ah oui, alors l'explication de cette colonisation, on va dire, par reproduction, parce qu'en fait, les plantes sont des organismes sessiles, donc il faut que ça passe par la reproduction et la dispersion des graines. Ça se fait parce qu'effectivement, les températures au sommet sont aujourd'hui plus clémentes que ce qu'elles n'étaient il y a, par exemple, 10, 20, 30 ans. Mmh. Et cette augmentation des températures va favoriser, si vous voulez, la germination de graines qui auraient pu être dispersées aussi il y a 20 ou 50 ans. C'est-à-dire que par exemple, si on prend les spores des fougères, elles sont, je pense, dispersées un peu partout. Mais il y a 50 ans, les conditions de température n'étaient pas favorables à la germination de ces spores ou de ces graines. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des températures, ces conditions deviennent favorables à la germination et à la colonisation, l'installation de ces espèces à haute altitude, et voire sur les sommets, jusqu'à justement occuper un espace qui était jusque-là inoccupé pour elles, et où finalement elles cohabitent avec des espèces plus typiques de ces sommets, que sont les espèces alpines. Alors bien évidemment, il faut quand même qu'il y ait un sol qui s'installe, c'est-à-dire que si c'est vraiment un sommet rocailleux avec que des roches, etc., c'est difficile pour des espèces de coloniser. Mais dès qu'il y a un petit peu de sol et d'espace qui peut être occupé, ces plantes vont germer et coloniser le milieu.
Merci Jonathan Lenoir. Explication donc suite à cette publication dans Nature autour donc de 302 sommets et bien ces changements de biodiversité. Merci beaucoup. Hervé Kempf, un œil sur le sommaire de reporter.net avant de vous quitter.
Oui, tout à fait. On s'est intéressé ce matin à un écosystème devenu presque unique, un bocage en zone humide qui est apparemment menacé très vivement par une espèce invasive. Est-ce que ce sont des vampires psychiques? En tout cas, ils sont armés de matraques et de lance-grenades. Et du coup, on s'est aussi intéressé à un sujet totalement ignoré et scientifique, c'est le contenu des grenades lacrymogènes. Bizarrement, à la différence de nombre de produits chimiques d'usage courant dont on doit connaître la composition, c'est légal, c'est absolument impossible de savoir ce qu'il y a dans les grenades lacrymogènes, les adjuvants, les produits chimiques. Et c'est un vrai problème parce que c'est évidemment dangereux pour la santé, non seulement des manifestants, mais aussi des policiers et des gendarmes.
Donc vous avez mené l'enquête pour reporter.net. Merci beaucoup Hervé et Catherine. À demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'intelligence artificielle qui pourrait servir à trouver de la vie sur d'autres planètes. Une équipe d'astrophysiciens de l'université de Plymouth s'était appuyée sur des réseaux de neurones artificiels capables de classer les planètes en 5 types, leur ressemblance à la Terre actuelle, à la Terre primitive, à Mars, à Vénus, ou encore à la Lune de Saturne, Titan. Et par analogie, le système mesure la probabilité de présence de vie sur ces astres telluriques qui ont en commun une atmosphère. Cette intelligence artificielle pourrait bien apporter donc des informations précieuses sur les différents types d'exoplanètes que les scientifiques observent actuellement. Peut-être moins d'accidents d'éoliennes pour les oiseaux en migration. Les scientifiques du laboratoire d'ornithologie de New York ont mis au point en tous les cas des radars et modélisé des cartes en temps réel pour suivre les circuits migratoires des oiseaux. Ce système indique aux propriétaires de parcs éoliens américains le moment opportun pour arrêter justement les éoliennes et ainsi laisser passer paisiblement les grandes migrations nocturnes. C'est principalement en mesurant la température de l'air, facteur important pour la migration des oiseaux, que le système fonctionne. Il permet de détecter ainsi jusqu'à 1700 oiseaux par kilomètre carré dans le cas de grandes migrations. Et puis les émeus d'Australie, deuxième plus gros oiseau au monde après l'autruche, n'ont pas toujours eu la même taille. Une étude publiée dans la revue Biology Letters montre qu'il y a deux siècles, plusieurs sous-espèces d'émeus de différentes tailles colonisaient les îles autour du continent australien. Mais ces espèces ont depuis toutes disparu. Originalité, en tous les cas, la taille des individus était proportionnelle à celle de l'île de résidence. C'est ce qu'ont révélé les analyses génétiques des fossiles. De quoi mieux expliquer la taille unique des émeus d'Australie et l'évolution de cette espèce.